Très vite, pourtant, d'autres préoccupations s'imposent qui transforment la musique de Ravel, particulièrement orientée vers l'orchestre. Depuis quelque temps, en effet, d'étranges voyageurs sont installés à Paris et déballent leur matériel à portée de bien loin. Ce sont les danseurs des ballets russes de Serge Diaghilev qui vont, à partir de 1909, bouleverser pour quelques années la vie artistique de la capitale. Picasso, Cocteau, Stravinsky, tous ces peintres, ces écrivains et ces musiciens déjà célèbres accourent, émerveillés par tant de lumière, par les couleurs audacieuses des décors, par les mouvements désarticulés des danseurs. Pour Ravel, c'est un nouvel éblouissement, comme 20 ans auparavant lors de l'exposition universelle. La musique russe qu'il a toujours admirée revient en force, elle aussi, mise en valeur par des danseurs prestigieux pour lesquels le ballet est autre chose qu'un rite civilisé fait d'entrechats et de pas de deux. Lorsque le ballet de Stravinsky, le Sacre du printemps, est joué pour la première fois en 1913, il donne lieu au plus grand scandale musical du XXe siècle. Le monde musical est alors coupé en deux, opposant ceux qui ne perçoivent dans cette musique débridée que des bruits insolents et ceux qui y voient une source d'inspiration pour l'avenir. Immédiatement, Ravel se range dans le camp des défenseurs passionnés de la nouvelle musique contre ceux qu'il appelle les perruques. On le voit même debout, au beau milieu du théâtre des Champs-Élysées, répondant aux injures peu flatteuses d'une dame de la bonne société. Il faut dire que Ravel était habitué à ces atmosphères houleuses, où la musique déchaînée sifflait et colibée. Il faut dire aussi que ses propres œuvres seront elles aussi toujours attaquées et contestées. Cela est dans l'ordre des choses en art. Les idées nouvelles suscitent toujours passion et résistance, et bien des grands hommes ont dû affronter cette hostilité avant de connaître la gloire. Mais revenons à notre musicien. Devenu très proche de Stravinsky, il lui arrive de travailler avec son ami sur des projets communs. Ensemble, ils s'ouvrent aux idées musicales nouvelles qui commencent à surgir à travers l'Europe. Ainsi, pendant un temps, Stravinsky comme Ravel sont influencés par la musique d'un jeune compositeur autrichien, Arnold Schönberg. Et s'ils s'en éloignent, chacun pour des raisons différentes, ils ont au moins fait l'effort de comprendre très tôt cette musique dite « sérielle », dont la naissance allait quelque peu bousculer l'histoire de la musique. Mais surtout, Ravel et son ami Stravinsky retrouvent ensemble toute une partie de la musique russe injustement oubliée. C'est que depuis 50 ans, les musiciens d'Europe s'étaient plutôt tournés vers l'Allemagne et les opéras de Wagner envahissaient un peu la scène musicale. Contre cette mode du wagnérisme ambiant, Ravel et Stravinsky firent alors rejouer la musique russe de Balakirev, Rimsky-Korsakov, Moussorgski. Et par son nouvel ami, Ravel, devenu très lié au groupe des danseurs russes, se met à explorer le monde du ballet, qui le fascinera longtemps encore, jusqu'au fameux boléro, écrit lui aussi pour être dansé. Cela nous vaudra quelques chefs-d'œuvre, parmi lesquels Daphnis et Chloé, le plus réussi sans doute, et qui fut spécialement conçu pour la troupe de Diaghilev. Ravel mit près de 3 ans à l'écrire, lui qui composait si vite d'habitude. Mais quel résultat!
Yeah.
Hélas, si Ravel semble vivre dans un univers où seul compte la musique, la vie est là qui se charge de le rappeler à l'ordre. En 1914, après un début de siècle particulièrement brillant, Ravel découvre soudain les atrocités de la guerre. En Europe, les hommes sont mobilisés et la vie semble tout à coup se figer, comme paralysée par cette guerre qui accapare les esprits. Pourtant, Ravel, lui, n'est pas appelé. Oh, ce n'est pas qu'on juge son talent trop précieux pour l'exposer au combat. Non, l'explication est bien plus simple, plus humiliante aussi. Ravel, le grand compositeur Maurice Ravel, est trop malingre pour être soldat. On ne veut pas de lui. Profondément blessé d'être ainsi mis à l'écart d'une guerre qu'il croit juste, il va se démener pour être finalement mobilisé. Et comme il avait demandé à être dans l'aviation, croyant peut-être que son faible poids lui permettrait de voler plus facilement que les autres, on l'incorpore dans l'armée de terre comme chauffeur de poids lourd. Une photo de l'époque nous montre le soldat Ravel, lui d'habitude si élégant, emmitouflé dans une fourrure comme pour dire « Voyez si je suis gros !»